Oui, 19h12, donc un petit peu en avance sur le cadran. On commence notre ronde d'entrevue et on va commencer avec des constats qui sont pas nécessairement gays, mais que voulez-vous? Je pense que le monde entier ou beaucoup de secteurs du monde entier sont un peu dans la même situation. C'est plutôt de voir comment on va naviguer là-dedans, d'anticiper des pertes considérables dans chaque secteur de l'économie, en tout cas dans la plupart d'entre eux, particulièrement dans le secteur touristique. Bien qu'on envisage des vacances au Québec, on se rend de plus en plus compte que de toute façon, ce ne seront pas les vacances, on le savait là, mais on a peut-être espéré au début de la pandémie qu'on pourrait retrouver un semblant de normal pour les vacances. Ça sera pas tout à fait ça. Telle est la vie en mode coronavirus, en mode COVID-19. Et pour en parler, notre premier invité ce soir, il est le co-titulaire de la chaire de tourisme Transat et prof de marketing et de sciences à la gestion à l'UQAM, Marc-Antoine Vachon. Monsieur Vachon, bonsoir.
Bonsoir, M. Langlois.
Les pertes seront considérables, bien qu'on ne sait pas encore exactement quel genre d'été on va passer. Vous les estimez à combien et sur quoi vous vous appuyez pour y aller de chiffres quant au manque à gagner de l'industrie touristique cet été?
C'est une bonne question. En réalité, on n'a pas fait d'études économiques, mais c'est une espèce de règle de trois qui nous permet d'arriver à des chiffres quand même assez impressionnants. Si on prend bon, globalement, là, le tourisme génère 16 milliards de revenus au Québec. Donc, ça, en proportion, c'est quand même le cinquième produit d'exportation. C'est pas rien. Et si la moitié à peu près de ces montants-là sont générés l'été, et de notre enquête auprès des industries, il y avait 50% des entreprises qui disaient que ça allait être catastrophique au mois d'avril, là, quand on a pris le pouls. Alors, c'est une règle de trois qui permet de constater ce genre de dégâts. Donc, 4 milliards, là, le coup de sonde qu'on avait là, au mois d'avril.
D'accord. Et donc, les chiffres, ça tourne, et même en excluant certains secteurs, ça va dépasser le 4 milliards. C'est considérable. Est-ce qu'il y a une région qui va souffrir plus qu'une autre? On aurait tendance à penser à Montréal, mais peut-être pas nécessairement.
C'est une bonne question parce que actuellement, on est un peu dans le flou dans les intentions de voyage des Québécois. Alors, il y a un petit peu la polémique, là, c'est-à-dire certains gens de région veulent pas recevoir les gens de Montréal, c'est un. Mais il faut pas oublier que l'émission de touristes vient principalement des centres urbains, comme Montréal et de Québec. Mm-hmm. Alors, si des entreprises en région veulent survivre, ça leur prend des touristes qui se rendent chez eux. Et est-ce que l'inverse est vrai? Ça, on n'a pas de données là-dessus, mais comme on dit, le bon Dieu sait et le diable sans doute, là, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui devront être faits pour rassurer les gens de l'extérieur de Montréal, pour les rassurer de venir, par exemple, au centre-ville. Mais là, tous les efforts sont mis de l'avant pour même rassurer la communauté. Donc, faire en sorte que les citoyens se convertissent en touristes, qu'ils revisitent leur ville différemment. Et les efforts sont mis là-dessus présentement.
Et parlant de sondage, allons dans le détail du sondage que la chaire de tourisme Transat là, et vous, là, vous avez mené. Quelles sont les questions les plus importantes? Évidemment, avec les pourcentages de réponses, si vous faites un survol des questions les plus significatives, là, je vous écoute nous les décliner.
Oui, alors c'est un sondage qui a été en collaboration avec le ministère du Tourisme et aussi l'Alliance de l'industrie du tourisme du Québec. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe. Alors, le coup de sonde, on voulait avoir une idée de l'impact du COVID-19. Donc, ce qu'on avait déjà comme coup de sonde, déjà en avril, 89% des entreprises avaient reçu des reports ou des annulations. Et de ce chiffre-là, trois quarts étaient des annulations. Fait que déjà, ça commençait à mal aller rapidement, vous comprenez?
Oui.
60% des entreprises disaient qu'elles avaient assez de liquidités pour survivre un mois. Et ça, on comprend que les coffres se vidaient. Hein. On sait qu'au printemps, là, on est sur les fonds de tiroir parce qu'on essaie de survivre jusqu'à l'été qui va permettre de renflouer les coffres pour plusieurs. Et là, ce mois-là, qui achève présentement, là, M. Langlois, alors il y en a plusieurs qui étaient contents de certaines annonces, mais il y a plusieurs entreprises qui veulent d'autres annonces à venir, ça je peux vous le garantir.
Bien, certainement. Et par rapport, est-ce qu'il y en a qui sont déçus? Avez-vous posé des questions sur les intentions pour voyager à l'extérieur? Ou bien que ce ne sera pas vraiment possible, mais est-ce qu'il y a beaucoup de déceptions de ce côté-là où les gens étaient résignés?
Je crois que les gens sont résignés en général. On sait que la santé, la sécurité, c'est ce qui prime là, hein, pour, et pas juste pour les Québécois, pour partout dans le monde là. Donc on voit très peu de grogne quand même de personnes qui disent ah non, je veux absolument sortir, je suis prêt à défier la santé publique. On voit pas vraiment ça dans notre veille mondiale qu'on fait là au niveau du réseau de veille.
Avez-vous les chiffres selon si on se fie aux dernières années là, avant bien sûr 2020, sur l'impact des visites touristiques des Américains, des Européens et même des Asiatiques, de plus en plus d'Asiatiques qui viennent en vacances ici là, ça représente quoi l'import touriste là, le dollar qui arrive de l'extérieur comme dans le cas d'un Grand Prix de Formule 1 par exemple ou dans d'autres situations?
C'est une excellente question. D'ailleurs, pour votre gouverne, la semaine du Grand Prix, c'est la semaine touristique la plus payante au Canada. Donc, quand on perd la F1 à la mi-juin, ce sont des pertes sèches. Et là, même un report, là, on ne sait pas trop là, quand est-ce que ça va venir, si ça va se faire, mais ce report-là est catastrophique. Si vous voulez des chiffres sur l'international, grosso modo, 26% de l'achalandage touristique est dû à du hors-Québec. Donc, c'est le reste du Canada, oui, mais beaucoup les États-Unis, beaucoup la France. Mais même si c'est environ le quart de l'achalandage, c'est 54% des recettes. On comprend, hein, parce que quand on voyage à l'international, ben, on reste dans les hôtels, on va dans les restaurants, alors que comme Québécois, quand on fait du voyage intra-Québec, ben, on va chez des amis, des fois on fait un barbecue, on va peut-être voir plus notre famille que des attraits. Alors, ces dépenses-là ne seront pas effectuées cet été. Et alors, c'est pour ça qu'on se met en mode survie. Donc, on va essayer de tabler sur le touriste québécois. Et là, la prochaine étape, c'est de rassurer tout le monde. Parce que là, il y a des plans sanitaires qui sortent. Il y a des gens très sérieux qui ont planifié des plans sanitaires à des gens de tous les secteurs, toutes les industries, incluant comprises dans le tourisme. Et il y a un tronc commun, certes, mais aussi des plans sanitaires contextualisés pour être sûr que les situations soient bien prises en compte. Et puis, ces plans-là devront bien sûr sortir au fur et à mesure du déconfinement, mais il y a un travail aussi de notoriété, de vulgarisation auprès de la population pour que les gens puissent prendre une décision éclairée, à savoir dans quoi je m'engage si je voyage et comment ça va se passer au restaurant, dans un attrait, à l'hôtel. Et tout ça, il y a un petit peu un point d'interrogation présentement dans la tête.
Ça va être du cas par cas selon les régions, ouais, parce qu'il n'y a pas les opinions se ressemblent d'une région à l'autre, mais les décideurs, bref, les consignes sont surtout des recommandations que d'imposer l'application de loi. J'ai hâte de voir, hier on parlait du déconfinement touristique dans les pourvoiries, notamment, c'est un secteur de tourisme, la CEPAC. Qui a eu l'idée, parce que je pense que tout le monde cherche des idées, de dire comment qu'on ferait pour stimuler peut-être un peu de déplacement, un peu de dépenses de nature touristique. Qui est arrivé avec la suggestion de tomber à des semaines de 4 jours pendant la belle saison?
Ça, vous me posez une excellente question. Je peux pas vous répondre.
Ah, ça vient pas de vous, ça?
Okay. Non, ça vient pas de nous, non.
OK. Ben, c'est sûr que au même prix, les gens sont toujours ouverts à travailler une journée de moins, mais bref,
je le comprends bien.
on va mettre ça au côté, mais par rapport aux pertes anticipées financières, mais là, si on humanise ça un petit peu, c'est du monde, ça, c'est des centaines de milliers d'emplois. De quelle façon est-ce que eux sont tous éligibles à la PCU en ce moment? Du côté des commerces, on parle de commerce, 36% des commerces qui pourraient fermer après la crise, quelle sera l'étendue des dégâts selon ce que vous pouvez anticiper?
Ah, c'est un excellent point, M. Langlois. Déjà, en avril, 30% des entreprises pensaient faire faillite. C'est pas rien quand même, 30%.
Mais non.
Et
les restaurants, c'est peut-être 1 sur 2, pas juste dans des régions touristiques, on verra après la crise, mais je vous écoute pour la suite.
Mais oui, exactement, tout à fait d'accord. Et alors, vous parlez d'emploi, le tourisme, c'est 400 000 emplois annuellement. Ça, c'est 10 Desjardins quand vous pensez à ça. Et un des soucis, vous faites référence à la PCU, c'est que dans le tourisme, il y a beaucoup de travailleurs saisonniers. Alors, il faut avoir cumulé certains revenus pour avoir accès à certaines prestations, certaines aides. Et là, plusieurs travailleurs comptaient sur l'été pour engranger quelques revenus pour avoir accès à certaines aides, à certaines prestations. Et c'est là que le souci, c'est que là, si le déconfinement ne prend pas un rythme plus accéléré, bien, il y a des entreprises qui ouvriront carrément pas, il y a des gens qui n'iront pas au travail, cumuleront pas, et parce que présentement, les saisonniers ne sont pas inclus dans les programmes d'aide.
Non, ils ne le sont pas. Et les restaurants, tout ce monde-là, on a l'impression que c'est pas volontaire là, de la part des gouvernements. C'est la nature même de leurs entreprises qui fait en sorte que c'est difficile de leur donner le feu vert. Mais oui, il y a des gens qui souffrent en silence, de moins en moins en silence. Des restaurateurs sont sortis avec leurs casseroles au cours des derniers jours à Montréal. Est-ce qu'il y a moyen de faire front commun dans cette industrie-là? Puis encore là, je sais pas si ça changerait grand-chose. Faut-il faire pression, tout simplement être obéissant, docile? A été utilisé très, très souvent depuis le début, mais est-ce que l'heure est encore à la docilité dans l'industrie touristique ou on s'impatiente?
Moi, je suis en désaccord avec la docilité, avec cette perception-là de docilité. C'est-à-dire qu'il y a un travail de collaboration qui est fait et on est en mode solution. Donc, on n'est pas à trouver des « c'est la faute à qui », tout le monde travaille. Il y a un travail sérieux et ça se fait pas sur la place publique. Ça se fait dans des comités de travail. Ça se fait avec des rapports d'information. Et puis, je vois aussi qu'il y a du monde qui travaille extrêmement fort là-dessus. Alors, vous savez, c'est une industrie qui est complexe. D'ailleurs, les restaurateurs ne relèvent pas directement du ministère du tourisme. Hein.
Vous avez raison. Et les situations sont différentes selon qu'on est à Montréal, Québec, Longueuil, Laval, Percé. Je parlais à la mairesse de l'endroit hier. Eux autres, il n'y a pas grand COVID dans le coin en ce moment. Ça va s'en venir peut-être avec l'été, là, mais...
Ben, c'est ça qu'on ne sait pas. Et là, un des soucis, c'est... Et vous faites bien référence à la nécessité de collaborer ensemble.
Bien sûr.
C'est-à-dire que dans le tourisme, on a des attraits, mais on a aussi des compagnies aériennes.
Oui.
Il y a des hôteliers. Les restaurants font partie aussi de l'offre touristique. Hein. C'est une raison pour laquelle on se déplace. Là. Si vous parlez de Percé, c'est sûr que c'est intéressant d'aller manger du homard. Si les restaurants sont pas ouverts, ça fait une raison, peut-être une motivation de moins d'y aller.
Mm-hmm.
Alors, donc le plan de déconfinement touristique est très complexe parce que qui on met de l'avant en premier? Est-ce qu'on peut sortir tout le monde ensemble? Parce que l'offre holistique qui est intéressante, c'est savoir que tout est ouvert qui est intéressant pour le touriste. Et c'est ce plan qui est justement de tout ouvrir. C'est ça, dans le fond, l'inverse d'un déconfinement, hein, c'est d'y aller graduellement. Alors, c'est pas simple.
Bien, M. Vachon, merci beaucoup de nous avoir parlé, partagé les résultats de votre étude, de votre sondage, et à une prochaine.
Ça fait plaisir, M. Langlois.
Au revoir, bonne fin de soirée.